Ce n'est guère que dans les romans qu'on voit des inconnus se prendre soudainement d'une confiance illimitée et se raconter leur vie entière sans restriction, sans réserver même leurs secrets les plus intimes et les plus chers. Dans la vie réelle, on y met plus de façons. Longtemps après que le vieux brocanteur l'eût quitté, Mademoiselle Henriette délibérait encore, indécise, de ce qu'elle ferait le lendemain, quand elle le reverrait. Et d'abord, elle se demandait qui pouvait être ce singulier bonhomme qui lui-même s'était qualifié de personnage équivoque et dangereux. Était-il réellement ce qu'il paraissait? La jeune fille en doutait presque. Encore qu'elle n'eût guère d'expérience, elle avait été frappée de certaines transformations singulières et très sensibles du père Ravinet. S'animait-il? Ses attitudes, ses manières et son geste juraient avec ses habits de monsieur de campagne, comme s'il eût oublié une leçon apprise. Et en même temps, son langage trivial et incorrect d'habitude, et tout émaillé de locutions de son métier, s'épurait. Que faisait-il? Était-il brocanteur avant de venir s'établir dans cette maison de la rue Grange-Batelière qu'il n'habitait que depuis 3 ans? Il n'était pas besoin de grands efforts pour imaginer le père Ravinet. Était-ce même son vrai nom, en une situation tout autre? Et pourquoi non? Paris n'est-il pas par excellence le refuge des déclassés, des vaincus de toutes les luttes de la civilisation? N'est-ce pas à Paris seulement que, perdus dans la foule, les malheureux et les coupables, oubliés et inconnus, peuvent recommencer une existence nouvelle? Ah, si on cherchait un peu! Que de gens, tout à coup disparus après avoir jeté un certain éclat, on retrouverait sous des habits d'emprunt, gagnant à des métiers infimes leur pain de chaque jour. Qui empêchait que le vieux brocanteur ne fût un de ceux-là? Mais tout cela n'expliquait pas suffisamment à Mademoiselle Henriette, et de façon à calmer ses appréhensions, l'empressement du père Ravinet, ses offres de service, son assistance à donner des conseils. Était-ce pure charité de sa part? Hélas, la charité désintéressée a rarement de ses ardeurs. Connaissait-il donc Mademoiselle Henriette? S'était-il à un moment donné, récent ou éloigné, trouvé en relation avec elle, mêlé à sa vie ou à la vie des siens? Payait-il ainsi un service rendu? Espérait-il au contraire de l'avenir quelque récompense? Autant de problèmes. Me mettre à la merci de cet homme, pensait la jeune fille, n'est-ce pas une imprudence énorme? D'un autre côté, en le repoussant, elle retombait dans cet abîme de misère où elle n'avait aperçu d'autre issue que le suicide. Or, il lui arrivait ce qui toujours advient à ceux qui, ayant attenté à leur jour, ont été sauvés lorsque déjà ils avaient épuisé les angoisses de l'agonie et qu'ils avaient fini de souffrir. Comme si l'effroyable contact de la mort eût effacé les douleurs du passé et les menaces de l'avenir, elle se remettait à aimer la vie d'une passion désespérée. « Daniel, murmurait-elle toute frissonnante, Daniel, mon unique ami, quelle ne serait pas ta souffrance si tu savais que tu m'as perdu irrémissiblement en essayant d'assurer mon salut ?» Pour se soustraire à la périlleuse protection du père Ravinet, elle se sentait capable de prodiges d'énergie. Mais où? Mais comment l'employer cette énergie? Toujours la voix de la froide raison lui criait « Ce vieux brocanteur est ton seul espoir !» L'idée de mentir, d'abuser le père Ravinet par des confidences inventées à plaisir ne lui venait pas. Elle ne songeait qu'au moyen de dire la vérité sans la dire tout entière, cherchant comment en avouer assez pour qu'on pût la servir, assez peu pour ne pas compromettre un secret qu'elle avait estimé plus précieux que son bonheur, que sa réputation, que sa vie. C'est qu'elle était victime, la fortunée, d'une de ces intrigues qui se nouent et se dénouent dans le cercle étroit du foyer domestique. Intrigue abominable souvent, qu'on soupçonne, qu'on connaît même quelquefois, et qui cependant demeurent impunies, car la loi humaine ne saurait les atteindre. Le père de Mademoiselle Henriette, le comte de la ville Audry, était vers 1845 un des plus riches propriétaires de l'Anjou. Ce n'est pas sans orgueil que les gens des Rosiers et de Saint-Mathurin montraient aux étrangers le massif château de la ville Audry, tapis au soleil levant, au milieu d'ouvrages séculaires, dans un repli de ce cottage merveilleux qui domine la Loire. « Là, disait-il, demeure un brave homme, un peu fier peut-être, mais brave homme tout de même. » Chose rare à la campagne, où l'envie couve des haines atroces, le comte, malgré son titre et sa grande fortune, était assez aimé. C'était alors un homme d'une 40aine d'années, assez grand et de bonne mine, solennel et poli, obligeant quoique froid, et très tolérant, pourvu qu'on ne discutât devant lui ni la religion, ni la légitimité, ni la noblesse, ni le clergé, ni ce chien de chasse, ni la supériorité des vins d'Anjou, ni diverses choses encore, constituant l'ensemble de ce qu'il appelait fastueusement ses opinions. Parlant peu et jamais au hasard, il disait moins de sottises que d'autres, et cela lui avait valu un renom d'esprit, de capacité et de savoir dont il n'était pas médiocrement fier et qu'il entretenait soigneusement. Libéral, presque prodigue, il ne mettait guère de côté chaque année que la moitié de ses revenus. Il se faisait habiller à Paris, était toujours coquettement chaussé et ne sortait jamais sans gants. Sa maison était tenue sur un pied respectable. Il dépensait 2000 francs par an rien que pour l'entretien des jardins. Il avait une meute et 6 chevaux. Enfin, il entretenait une demi-douzaine de grands diables et de domestiques dont les livrets armoriés étaient l'éternel ébahissement des gens de Saint-Mathurin. Il lui était complet sans sa passion pour la chasse. La saison venue, à cheval ou à pied, par tous les temps, on était sûr de le rencontrer, le carnier au dos, arpentant les chaumes, sautant les haies ou barbotant dans les marais. À ce point que les châtelaines des environs blâmaient hautement ses imprudences, lui reprochant de compromettre inutilement une santé précieuse. Précieuse. Elle l'était en effet pour les familles pourvues de filles à marier. Ce gentilhomme de 40 ans, comblé de toutes les faveurs de la destinée, était célibataire. Et certes, ce n'étaient pas les occasions qui lui avaient manqué. Il n'était pas une bonne mère à 20 lieues à la ronde qui négotât pour sa fille cette proie magnifique. 150 000 livres de rente et un beau nom. Il lui suffisait de paraître à un bal à Saumur ou à Angers pour en être le roi. Mère et fille réservaient pour lui leurs plus accueillants sourires et leurs plus provocantes œillades. Mais toutes les avances avaient échoué. Et même il avait su éviter plus d'un guet-apens conjugal adroitement tendu, car on était allé jusqu'au guet-apens. D'où lui venait cette horreur du mariage? Ses intimes l'expliquaient par la présence au château de certaines gouvernantes, moitié lingères, moitié dames de compagnie, assez jolies et très intrigantes. Mais il est des mauvaises langues partout. Cependant, un événement arriva l'année suivante qui ne laissa pas que de donner beaucoup de consistance au cancan, médisance ou calomnie. Un beau matin du mois de juillet 1847, on apprit la mort de cette gouvernante, enlevée en quelques heures par une congestion cérébrale. Et dès le premier jour de septembre, c'est-à-dire 6 semaines plus tard, le bruit se répandit du mariage du comte de la Ville-Audrey. La nouvelle était exacte. Monsieur de la Ville-Audrey se mariait. On n'en put plus douter quand on vit ses bancs affichés à la porte de la mairie de Saint-Mathurin. Et qui épousait-il, s'il vous plaît? La fille d'une pauvre veuve, la baronne de Rupert, qui traînait au rosier une existence misérable, sans autre ressource que la maigre pension qui lui revenait du chef de son mari, mort colonel d'artillerie. Si encore elle eût été de bonne et authentique noblesse, si seulement elle eût été du pays. Mais point, on ne savait même au juste qui elle était ni d'où elle venait, ayant été épousée à l'étranger en Autriche, suivant les uns, et selon les autres en Suède. Quant à feu le colonel, on le disait baron de la façon du Premier Empire, et on lui contestait la particule qu'il mettait devant son nom. Il est vrai que Mademoiselle Pauline de Rupert, âgée alors de 23 ans, était dans tout l'éclat de la jeunesse et d'une merveilleuse beauté. Il est vrai que, jusqu'à ce jour, elle avait eu la réputation d'une jeune fille modeste et sensée, d'un esprit supérieur, douce, aimante, dotée enfin de toutes ces qualités rares et exquises qui sont l'honneur d'une maison et fixent le bonheur au foyer domestique. Mais quoi? Pas un sous-vaillant, pas de dot, pas même un trousseau. La stupeur fut profonde et suivie tout aussitôt d'un effroyable débordement d'indignes calomnies. Était-il possible, naturel, qu'un gentilhomme tel que le comte finît ainsi, piètrement, ridiculement, qu'il épousa une fille sans le sou, une aventurière après avoir eu à choisir entre les plus nobles et les plus riches parties du pays? Monsieur de la Ville-Audrey n'était-il donc qu'un sot impertinent? Ou plutôt, ne s'était-il pas mépris sur le compte de la petite personne? Au lieu de ce qu'on croyait, n'était-elle pas une hypocrite intrigante qui, fort subtilement, avait tissé dans l'ombre le filet où on voyait pris le lion de l'Anjou? L'étonnement eût été moindre si on eût su que Madame Veuve de Rupert avait été fort liée avec la gouvernante défunte du château de la Ville-Audrey. Cette circonstance, si elle eût été connue, eût servi de texte à de bien autres histoires. Quoi qu'il en soit, le comte ne devait pas tarder à constater le prodigieux revirement de l'opinion publique à son endroit. L'occasion lui en fut fournie lors de ses visites de noces, quand il présentera sa jeune femme à Angers et dans les châteaux des environs. Plus de sourires accueillants, plus de provocantes œillades, plus de jolies mains blanches furtivement tendues aux siennes. Les portes, qui jadis semblaient s'ouvrir seules à deux battants dès qu'ils se présentaient, maintenant s'entrebâillaient à peine de mauvaise grâce. Quelques-unes même restèrent fermées, les maîtres lui faisant dire qu'ils étaient absents, alors qu'ils savaient d'une façon sûre et positive qu'ils étaient chez eux. Une dame fort noble et encore plus dévote, en possession de donner le ton, avait prononcé ce mot décisif. « Certes, je ne recevrai jamais une péronnelle qui enseignait la musique à mes nièces, eût-elle englué et épousé un Bourbon. » C'était cruel. Cruellement affligée de voir sa mère privée de ses douceurs, de l'aisance que l'âge rend si nécessaire, Mademoiselle Pauline avait donné dans le voisinage des leçons de piano, qu'on lui payait Dieu sait quel prix. N'importe, on s'armait contre elle de son noble dévouement. On lui eut fait un crime des plus admirables vertus. C'est que c'est à elle surtout qu'on en voulait. La rencontrait-on seule ? On détournait la tête pour ne la pas saluer. Et lorsqu'elle était au bras de son mari, il y avait des gens qui parlaient fort amicalement au comte et qui n'adressaient pas la parole à la comtesse, comme s'ils ne l'eussent point vue ou comme si elle n'eût pas existé. Même les impertinences de ce genre allèrent si loin qu'un jour, M. de la Ville-Audry, exaspéré, hors de lui, saisit au collet un gentilhomme, son voisin, et le secoua rudement en lui criant à 2 pouces du visage. « Ne voyez-vous donc pas, Madame la Comtesse, ma femme ? Quelle correction vous faut-il pour vous guérir de votre myopie ?» Menacé d'un duel, l'insolent fit bravement les plus plates excuses, et cet acte de vigueur rendit les gens circonspects. Mais les sentiments n'en furent point modifiés. La guerre ouverte dégénéra en une sourde hostilité, voilà tout. Cependant, la destinée, meilleure que les hommes, réservait à Monsieur de la Ville-Audrey une récompense bien inattendue de l'héroïsme dont il avait fait preuve en épousant, lui si riche, une fille pauvre. Un frère de Madame de Rupert, banquier à Dresde, mourut, léguant à sa chère nièce Pauline environ 1 500 000 francs. Cet homme si riche, qui de sa vie n'avait envoyé un secours à sa sœur, qui eût déshérité la fille du soldat de fortune, avait été flatté d'écrire en tête de son testament le nom de « haute et puissante comtesse de la Ville-Audrey ». Cet héritage inespéré eût dû ravir la jeune femme. N'allait-il pas la venger victorieusement des plus ineptes calomnies et lui ramener l'opinion ? Et pourtant, jamais on ne la vit si triste que le jour où la grande nouvelle parvint au château. C'est que ce jour-là, peut-être, elle maudit son mariage. C'est qu'en dedans d'elle-même, une voix s'éleva qui lui reprochait amèrement d'avoir cédé aux ordres, aux supplications de sa mère. Fille incomparable, de même qu'elle devait être la meilleure des mères et la plus chaste des épouses, elle s'était dévouée, et voici que les événements donnaient tort à son sacrifice et la punissaient de ce qu'elle avait fait son devoir. Ah, que n'avait-elle combattu, résisté, gagné du temps ? C'est que, jeune fille, elle avait rêvé à un autre avenir. C'est qu'avant d'accorder sa main au comte, spontanément et librement, elle avait donné son cœur à un autre. C'est qu'elle avait aimé du plus naïf, du plus chaste amour, un jeune homme de 2 ou 3 ans seulement plus âgé qu'elle, Pierre Chancé, le fils d'un de ces richissimes cultivateurs comme on en compte par centaines le long de la vallée de la Loire. Lui l'adorait. Malheureusement, un obstacle dès le premier jour s'était dressé entre eux, infranchissable, la pauvreté de Pauline. Y avait-il à espérer que le père et la mère Chancé, ces âpres paysans, permettraient à un de leurs fils, ils en avaient 2, cette folie qui s'appelle un mariage d'amour ? Ils s'étaient imposé de rudes sacrifices pour leurs enfants. L'aîné, Pierre, se destinait au barreau. L'autre, Daniel, qui voulait être marin, travaillait pour entrer au Borda. Et les Chancé n'étaient pas médiocrement fiers d'avoir fait des messieurs de leur gars. Mais ils disaient à qui voulait l'entendre qu'en échange de cette dot, l'éducation, ils comptaient exiger de leur bru force espèce sonnante. Pierre connaissait si bien ses parents que jamais il ne leur parla de Pauline. « Quand j'aurai l'âge des sommations respectueuses, pensait-il, ce sera une autre affaire. » Hélas, pourquoi Madame de Rupert n'avait-elle pas voulu que sa fille restât libre jusque-là ? Pauvre jeune femme. Le jour où elle était entrée au château de la Ville-Audry, elle s'était jurée d'ensevelir cet amour si avant au fond de son cœur que jamais il ne troublerait sa pensée. Et elle s'était tenue parole. Mais voici que tout d'un coup il surgissait plus ardent et plus vivace qu'autrefois, l'oppressant jusqu'au spasme, doux et triste comme un souvenir de bonheur envolé, et en même temps, cruel et déchirant comme un remords. Ainsi qu'en songe, elle revoyait Pierre, tel que leur première adolescence, alors qu'il se glissait à la brune jusque sa pauvre logis, alors que furtivement, elle en trouvait la fenêtre pour l'apercevoir. Qu'était-il devenu ? Lorsqu'il avait appris qu'elle allait épouser le comte, il lui avait écrit une lettre désespérée, où il l'accablait d'ironie et de mépris. Puis, qu'il eût oublié ou non, il s'était marié lui-même et eux, qu'ils étaient bercés de ce rêve de cheminer dans la vie appuyés l'un sur l'autre, séparés à jamais, ils suivaient chacun son chemin. Seule, enfermée dans sa chambre, longtemps la malheureuse se débattit contre ces spectres du passé qui l'obsédaient. Mais si quelques pensées coupables fit monter le rouge à son front, elle sut en triompher. Loyale et vaillante, elle renouvela le serment qu'elle s'était fait de se consacrer entière à son mari. Il l'avait tirée de la misère pour lui donner sa fortune et son nom. En échange, elle lui devait le bonheur. Et certes, à s'affermir dans ses résolutions, il y avait de sa part quelque courage. Après 2 ans de ménage, le caractère du comte n'avait plus pour elle de secret. Elle avait mesuré l'étroitesse de son esprit, le vide désolant de sa pensée, la sécheresse de son cœur. Sous le brillant gentilhomme accepté comme une capacité, selon l'expression du pays, elle avait découvert un être absolument nul, borné, incapable d'une idée si on allait lui souffler, et avec cela prétentieux, infatué de ses mérites et poussant l'obstination jusqu'à l'absurde. Et pour comble, M. Lavillaudry n'était pas loin de haïr sa femme. On lui avait tant insinué qu'elle n'était pas à sa hauteur qu'il avait fini par le croire. Enfin, il s'en prenait à elle de son prestige évanoui. Accablée de la lourde tâche échue à Madame de Lavillaudry, une femme vulgaire eût pensé que garder la foi conjugale à un homme tel que le comte, ce serait assez de vertu. Mais la comtesse n'était pas une femme vulgaire. Résignée, elle se promit d'avoir du moins la coquetterie de la résignation. Il est vrai que désormais un berceau adoré enchaînait son âme au foyer. Elle avait une fille, son Henriette, et sur cette chère tête blonde, elle bâtissait un monde de merveilleux projets. C'est de ce moment qu'elle sortit de l'inertie où elle s'assoupissait depuis 2 ans et qu'elle se mit à étudier le comte avec cette prodigieuse perspicacité que développe un grand intérêt en jeu. Un mot de M. de la Villaudry devait l'éclairer. Un matin, comme ils achevaient de déjeuner en tête à tête, « Ah, Nancy t'aimait bien, lui dit-il. La veille de sa mort, lorsqu'elle sentait qu'elle était perdue, elle me conjurait de t'épouser. » Cette Nancy, c'était la défunte gouvernante du château. Après cette maladresse du comte, point n'était besoin de longues réflexions pour comprendre le rôle qu'avait joué cette femme. Il devenait évident que, modestement effacée dans l'ombre, protégée par l'intériorité même de sa situation, elle avait été tout à la fois l'intelligence, l'énergie et la volonté de son maître. Et son influence sur lui avait été si puissante qu'elle lui avait survécu et qu'elle avait été obéie par-delà le tombeau. Cruellement humiliée par l'aveu de son mari, la comtesse eut assez de puissance sur elle pour ne lui en point garder rancune. « Eh bien, soit, se dit-elle, pour son bonheur et pour notre repos, je descendrai jusqu'au rôle de cette Nancy. » C'était plus aisé à résoudre qu'à exécuter. Monsieur de la Villaudry n'étant pas de ceux qu'on manie ouvertement, ni même qui se rendent à un conseil quand leur on a démontré l'excellence. Irritable, ombrageux et despote comme tous les faibles, il ne redoutait rien tant que ce qu'il appelait une atteinte à son autorité. En tout, pour tout, partout et toujours, il prétendait être le maître, le souverain arbitre. Et ses susceptibilités sur ce point étaient si intraitables et si puériles qu'il suffisait que sa femme manifestât l'ombre d'une volonté pour que tout aussitôt, il voulût obstinément le contraire. « Je ne suis pas une girouette !» était une de ses déclarations favorites. Pauvre homme, qui ne comprenait pas que pour tourner au sens contraire du vent qui souffle, on n'en tourne pas moins. La comtesse le comprit, et ce fut là sa force. Après plusieurs mois de patience et de tâtonnement, il lui sembla qu'elle avait atteint son but et que désormais, dès qu'elle le voudrait sérieusement, elle dirigerait à son gré les volontés de son mari. Pour tenter l'expérience, une occasion se présentait. Encore que la noblesse des environs eût bien rabattu de ses hauteurs, et même lui fût presque revenue, surtout depuis son héritage, la comtesse estimait sa situation pénible et souhaitait ardemment quitter le pays. Il lui rappelait d'ailleurs trop de choses qu'elle voulait oublier. Il était de certaines routes où elle ne pouvait passer sans que son cœur bondît à briser sa poitrine. Mais d'un autre côté, il était bien connu que le comte s'était juré de finir ses jours en Anjou, qu'il avait les grandes villes en horreur, et que la seule idée de quitter son château, où il avait si bien toutes ses habitudes, le rendait d'une humeur massacrante. On tomba donc des nues lorsqu'on l'entendit annoncer qu'il quittait la Villaudry pour n'y plus revenir, qu'il avait acheté un hôtel à Paris, rue de Varennes, et qu'il ne tarderait pas à s'y fixer définitivement. C'est, du reste, bien malgré la comtesse, ajoutait-il en se rengorgeant. Elle ne voulait pas absolument, mais je ne suis pas une girouette. J'ai tenu bon, et elle a cédé. Si bien que dans les derniers jours d'octobre 1851, le comte et la comtesse de la Villaudry prenaient possession de leur magnifique hôtel de la rue de Varennes, une demeure princière qui ne leur coûtait pas le tiers de sa valeur, ayant été acheté à un moment où les immeubles subissaient une ridicule dépréciation. Mais avoir amené le comte à Paris n'était qu'un jeu. La difficulté sérieuse était de l'y maintenir. Il était aisé de prévoir que, privé du mouvement et des fatigues de la campagne, des soucis d'une vaste exploitation et des exercices violents, il périrait d'ennui ou se jetterait dans les désordres. Préoccupée de ces alternatives également redoutables, la comtesse avait cherché et trouvé un aliment à l'activité tracassière de M. de la Ville-Audry. Avant de quitter l'Anjou, elle avait laissé tomber dans son cœur le germe d'une passion qui, chez un homme de 50 ans, peut remplacer toutes les autres, l'ambition. Et il arrivait avec le secret désir, avec l'espoir de devenir quelqu'un, un homme de parti, un de ces politiques remuants dont la personnalité traverse toutes les grandes intrigues. Seulement, avant de lancer son mari sur un terrain qu'elle jugeait fort glissant et semé de fondrières, la comtesse s'était réservée de le reconnaître. Pour cette reconnaissance, son nom et sa fortune la servirent puissamment. Aidée de ses relations, elle eut le talent de constituer un salon. Bientôt, ses mercredis et ses samedis furent célèbres. On fit des démarches pour être invité à ses dîners ou admis à ses soirées intimes du dimanche. L'hôtel de la rue de Varennes devint comme un pays neutre où les rancunes et les espérances politiques se donnèrent la main. Pendant tout l'hiver, Madame de la Ville-Audry observa. Jamais, à la voir modestement assise près de la cheminée, on ne se fût douté qu'elle n'était pas uniquement occupée de sa fille, de sa jolie Henriette qui jouait ou lisait à ses côtés. Elle écoutait cependant, et de toutes les forces de son intelligence, se pénétrant des questions, cherchant la voie à suivre, aux éclairs des discussions s'exerçant à démêler les artifices des passions et des intérêts, cherchant quels ennemis craindre et sur quels alliés s'appuyer. Pareil à ces professeurs improvisés qui apprennent le matin ce qu'ils doivent enseigner le soir, elle étudiait la leçon qu'elle aurait bientôt à faire. Un esprit supérieur, son instinct de femme, une finesse naturelle et les aptitudes qu'elle ne se soupçonnait même pas devaient abréger ce pénible noviciat. Les résultats ne tardèrent pas à apparaître. Dès l'hiver suivant, le comte, qui jusqu'alors avait gardé une attitude ambiguë, sortit de sa réserve et se prononça. Il se montra éplu, bien servi qu'il était par un extérieur fort noble, de belles manières et un imperturbable aplomb. Il parla et on fut charmé de son bon sens. Il donna des conseils, sa pénétration surprit. Il eut des partisans très chauds et d'ardents détracteurs. D'aucuns voulurent voir en lui un futur chef de parti, il en prenait l'essor, se remuait extraordinairement, s'agitant, écrivant, discourant. « Encore que cela m'attire des ennuis dans mon intérieur, disait-il à ses intimes, la comtesse étant de ces femmes timides qui ne veulent pas comprendre que les hommes sont faits pour les émotions de la vie publique. Je serais encore en Anjou si je l'avais écoutée. » Elle, délicieusement, jouissait de son ouvrage. Le succès du comte ne la rehaussait-il pas dans sa propre estime en lui prouvant sa valeur? Ses sensations durent être celles d'un auteur dramatique lorsqu'il voit applaudir les types qu'il a créés. Et ce qu'il y eut de merveilleux dans l'œuvre de Madame de la Ville-Audry, c'est que personne ne la soupçonna. Non, personne, pas même sa fille. Pour Henriette, plus encore que pour le monde, elle voulut que l'illusion fût entière. Elle lui apprit non seulement à aimer son père, mais encore à respecter, à admirer en lui l'homme supérieur. Comme de raison, Monsieur de la Ville-Audry eût été le dernier à reconnaître la vérité. On la lui eut révélée, qui l'eût peut-être haussé les épaules. La ligne de conduite que lui avait tracée sa femme, c'est de bonne foi qu'il croyait l'avoir trouvée. Les discours qu'elle lui composait, il se persuadait dans la sincérité de son âme qu'il les avait pensés et coordonnés. Les articles de journaux et les lettres qu'elle lui dictait, il était bien convaincu qu'il les avait médités et écrits. Et même quelquefois, il s'étonnait du peu de jugement de la comtesse, lui les faisant remarquer d'un air d'ironique pitié que les actes dont elle le détournait le plus fortement étaient précisément ceux qui lui réussissaient le mieux. Mais il n'était pas de raillerie capable de détourner Madame de la Ville-Audry de ce qu'elle croyait son devoir, ni de lui arracher un mot ou seulement un sourire qui l'eût vengé. Impassible sous les sarcasmes de son mari, elle baissait la tête. Et plus il triomphait en son inepte suffisance, plus elle s'applaudissait de son œuvre, trouvant au-dedans d'elle-même et dans l'approbation de sa conscience de sublime compensation. Le comte avait eu ce rare désintéressement de la prendre son dot. Elle lui avait dû un grand nom et une fortune considérable. Mais en échange, et sans qu'il s'en doutât, elle lui avait assuré une situation qui n'était pas sans éclat. Elle lui avait donné le seul bonheur que put goûter cette âme petite et vulgaire, insensible à tout ce qui n'était pas satisfaction de la vanité. Dès lors, elle ne lui devait plus rien. « Oui, nous sommes quittes, se disait-elle, bien quittes. » Et elle se reprochait moins les heures où sa pensée, échappant à sa volonté, se reportait vers l'homme choisi par elle autrefois, vers Pierre. Pauvre garçon, elle lui avait porté malheur. Sa vie avait été brisée le jour où il s'était vu abandonner le sel qu'il aimait plus que la vie. De ce moment, Il n'avait plus une volonté. Et ses parents ayant enfin déniché, c'était leur mot, une bru à leur convenance, il l'épousa. Mais le père et la mère chancée n'avaient pas eu la main heureuse. La jeune fille, triée par eux entre 50, apportait 100 000 écus de dot, c'est vrai, mais ce fut une mauvaise femme. Et après 8 années d'un mariage qui, dès le premier jour, avait été un enfer, abreuvé de dégoût, atteint en son honneur par la digne conduite de celle qui portait son nom, n'ayant pas d'enfant, Pierre Chancé s'était brûlé la cervelle. Mais ce n'est pas à Angers, où il occupait un poste important, qu'il accomplit cet acte de désespoir. Il va se tuer aux environs des Rosiers, dans un petit chemin creux conduisant à la maison jadis occupée par Madame de Rupert. Des paysans qui se rendaient au marché de Saumur trouvèrent son cadavre au matin, étendu sur le revers d'un fossé. La balle l'avait si affreusement mutilé qu'on ne le reconnut pas tout d'abord, et ce suicide fit un bruit énorme. Ce fut Monsieur de la Villaudrée qui apprit à sa femme cette lugubre histoire. Il ne comprenait pas, il l'avouait, qu'un garçon bien posé, plein d'avenir et qui avait 25 000 livres de rente, finit ainsi d'un coup de pistolet. Et quel singulier endroit il a été choisir pour ce suicide, ajoutait le comte. Évidemment, il y avait de la folie dans son fait. Mais la comtesse n'entendait plus son mari. Elle s'était évanouie. Pourquoi Pierre avait voulu mourir dans ce petit chemin, tout ombragé de vieux ormes, elle ne le comprenait que trop. « C'est moi qui l'ai tué, pensait-elle, moi. » Si rude fut le coup qu'elle faillit n'y pas survivre. Même, elle eut bien du mal à expliquer le changement qui s'opérait en elle si à la même époque, elle n'eût perdu sa mère. Madame de Rupert s'éteignit paisiblement, ayant eu ce qu'elle souhaitait, toutes les jouissances du luxe pendant ces dernières années. Pelotonnée en son égoïsme, jamais elle ne daigna s'apercevoir qu'elle avait sacrifié sa fille. C'était ainsi cependant, car jamais femme ne souffrit ce que la comtesse endura à dater de cette heure où la mort de Pierre va ajouter à toutes ses douleurs le plus cruel remords. Ah, si sa fille ne lui attachait à l'existence! Mais elle voulait vivre. Il fallait qu'elle vécût pour son Henriette. Ainsi elle luttait seule, sans une âme à qui se confier, quand une après-midi, comme elle venait de descendre au salon, un domestique va lui annoncer qu'un jeune homme, portant l'uniforme d'officier de marine, sollicitait l'honneur d'être reçu. Ce visiteur avait remis sa carte au domestique. Madame de la Villaudrée l'a pris et lut « Daniel Chancé ». Daniel, le frère de Pierre. Plus pâle qu'une morte, la comtesse se dressa comme pour fuir. « Que dois-je répondre ?» interrogea le valet un peu surpris de l'émotion de sa maîtresse. La malheureuse femme se sentait défaillir. « Qu'il entre !» répondit-elle d'une voix à peine distincte. « Qu'il entre !» L'instant d'après, entra un jeune homme de 23 à 24 ans, à la physionomie ouverte et franche, au regard droit et clair, rayonnant d'intelligence et d'énergie. Du doigt, la comtesse lui montra un fauteuil en face d'elle. Quand il se fut agi de la vie de sa fille, elle n'eut pu prononcer une parole. Lui, il ne put faire autrement que de remarquer ce trouble étrange, mais il n'en devina pas la cause. Pierre n'avait jamais prononcé tout haut le nom de Pauline de Rupert. Il s'assit donc, et sans embarras comme sans forfanterie, il expliqua les motifs qui l'amenaient. Sorti du Borda avec un des premiers numéros, il était présentement en scène de vaisseau à bord du Formidable. Victime d'un passe-droit qui risquait de compromettre sa carrière, il avait sollicité et obtenu un congé et venait demander justice au ministre de la Marine. Son droit était évident, mais il savait qu'une solide recommandation n'a jamais gâté une bonne cause. Bref, il espérait que M. de la Villaudrée, dont on vantait en Anjou l'influence et l'obligeance, consentirait à l'appuyer près du ministre. Peu à peu, en l'écoutant, la comtesse avait repris une partie de son sang-froid. « Mon mari sera heureux de servir un compatriote, monsieur, » répondit-elle. « Il vous le dira lui-même, si vous voulez bien l'attendre, et nous rester à dîner. » Daniel resta. À table, il se trouva placé près de Mademoiselle Henriette, alors âgée de 15 ans, et en les contemplant ainsi l'un près de l'autre, si jeunes, si beaux tous les deux, la comtesse fut comme illuminée d'une idée soudaine qui lui parut une inspiration du ciel. Pourquoi ne conférait-elle pas la destinée, le bonheur de sa fille au frère de ce pauvre mort qu'il avait tant aimé? Ne serait-ce pas tout à la fois un hommage à sa mémoire et une sorte de réparation? Oui, il le faut, se répétait-elle le soir avant de s'endormir. Daniel sera le mari de mon Henriette. C'est pourquoi, moins de 15 jours plus tard, Monsieur de la Villaudrée disait à un de ses confidents habituels en lui montrant Daniel « C'est un fort remarquable sujet que ce jeune chancé, plein d'avenir et qui ira loin. Et quand il aura quelques années de plus et les épaulettes de lieutenant, s'il plaisait à ma fille et qu'il me la demanda, Je ne sais si je ne répondrai pas oui. La comtesse en penserait et en dirait ce qu'elle voudrait, je suis le maître. Avec cela, Daniel devait fatalement devenir l'hôte assidu de l'hôtel de la rue de Varennes. Non seulement il avait obtenu entière satisfaction, mais encore une protection puissante venait de le faire attacher provisoirement au ministère de la Marine avec promesse d'un embarquement avantageux. Ainsi, Henriette et Daniel furent rapprochés et en apprenant à se connaître, apprirent à s'aimer. « Mon Dieu !» pensait la comtesse. « Que n'ont-ils quelques années de plus ?» C'est que depuis quelques mois, les plus noirs pressentiments la troublaient. Il lui semblait qu'elle n'avait plus longtemps à vivre et elle frémissait à l'idée de laisser sa fille sans autre protecteur que le comte. Si encore Henriette eût connu la vérité, si au lieu d'admirer en son père l'homme supérieur, elle lui a appris à s'en défier. 20 fois, Madame de la Villaudrie fut sur le point de livrer son secret. Hélas, un excès de délicatesse la retint toujours. Une nuit, comme elle revenait d'un bal officiel, elle se sentit prise de frissons et de vertiges. Sans être autrement inquiète, elle demanda une tasse de tilleul. Elle était debout, devant la cheminée, se décoiffant quand on la lui apporta. Mais au lieu de la prendre, elle porta brusquement les mains à sa poitrine, poussa un cri rauque et tomba à la renverse. On la releva. En un instant, l'hôtel fut sur pied. On courut chercher des médecins. Soins inutiles. La comtesse de la Villaudrie venait de succomber à la rupture d'un anévrisme.